Alors, ce soir, on va parler du sport, plus précisément des sportifs. Cédric, on reçoit Sébastien Fleuriel et Emmanuel Scotté. Est-ce que, en deux mots...
En deux mots, donc on est très content de les recevoir dans cette émission et de faire enfin une émission sur le sport. Ça fait longtemps qu'on cherchait à en faire une. Donc Sébastien Fleuriel et Emmanuel Scotté sont sociologues à l'université de Lille et viennent de faire un livre qui s'intitule « Sportif en danger, la condition des travailleurs sportifs ». On aura l'occasion durant l'entretien de revenir sur cette question de la manière d'appréhender le sport au travers des travailleurs et du travail. Un petit livre donc qui est sorti dans la collection du Croquant, cette très bonne édition du Croquant. Alors peut-être d'entrée de jeu, puisque bon, on aura l'occasion de revenir sur plusieurs points, puisque ça fait déjà plusieurs années que vous étudiez le sport, mais on a tout de suite envie de commencer par une question un peu générale sur le discours médiatique qu'on entend à l'envi sur le sport, sport dont les valeurs seraient vecteurs d'intégration, de bien-être de l'individu, etc. Bon, on entend ça régulièrement dans les médias, et on aura envie de vous poser la question de savoir ce que vous pensez de ces affirmations qui nous sont proposer sans cesse.
Donc, le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est qu'il y a une très nette domination d'un discours de célébration. Donc, on regorge de bouquins dans les rayons des librairies qui s'appellent « Dieu et démon du stade »,« La fabuleuse histoire des Jeux Olympiques »,« La fabuleuse histoire du rugby », etc. Donc, la lecture première est celle qui associe le sport à une vision enchantée. Et d'une certaine manière, donc, on vend du rêve. Donc ça, c'est sur le versant médiatique du spectacle sportif. Et parallèlement à ça aussi, le sport est associé, donc comme Cédric vient de le dire, à tout un ensemble de vertus positives. Le sport donc est associé au bien-être, le sport est associé à la santé. Or, ça, bon, il y a tout un ensemble de travaux qui montrent que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais pour revenir sur ce qui est accessible au grand public, et les premières... comment le sport se donne à voir. Donc il y a d'un côté un versant donc, qui est très très dominant, en fait, qui met l'accent donc, sur la célébration du sport, et d'un autre côté, une critique du sport, mais qui est une critique latérale. Et de ce point de vue-là, en fait, le sport est mauvais par essence, pour les gens qui défendent cette posture. Donc c'est notamment le cas de Jean-Marie Brome, puisqu'en fait, je cite son nom, parce que c'est lui qui est un peu le chef de file de cette mouvance-là. Et en fait, donc, le sport est synonyme d'aliénation, le sport donc, est foncièrement négatif. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est encore une fois une vision qui est assez surplombante. Et d'une certaine manière, elle rejoint la vision qui est celle de la célébration, puisque dans les deux cas, donc on se place du côté de la célébration ou du côté de la critique, eh bien, on prête des vertus ou des défauts au sport, mais jamais on regarde comment ça se passe concrètement, et jamais on regarde quel est le sort de ceux qui s'adonnent corps et âme à cette pratique, donc les sportifs d'excellence, puisque d'un côté, on fait d'eux des idoles, des acteurs du rêve, et d'un autre côté, on ne voit en eux que finalement les rouages d'un système qui les dépasse, et dont ils sont les victimes aveugles, les bêtés, etc., etc. Donc voilà comment on peut, je pense, faire une description du panorama de ce qui existe à première vue.
Mais peut-être on peut dire deux mots dans nos sociétés de ce que veulent dire ces grands rendez-vous, ces grandes messes sportives. On a vu ce qui s'est passé autour de la Coupe du Monde de rugby, de l'Euro il y a quelques jours, des JO qui arrivent, du Tour de France. Ça déborde très largement la simple pratique sportive. On prévoit des points de croissance en fonction de la place de l'équipe de France au final dans ces compétitions.
Ouais, c'est un petit peu le problème du sport, c'est qu'on lui fait jouer beaucoup de choses, sans doute un peu trop d'ailleurs, puisque il se retrouve investi d'un certain nombre d'attentes qui sont toujours très 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 fortes. Les points de croissance sur l'économie, c'est une chose. Je ne suis pas certain que ce soit le problème des sportifs. Il y a ce problème, effectivement, de toujours lui prêter des intentions qui ne sont pas forcément les siennes initialement, ni celles des sportifs d'une manière générale. Quoi.
Et donc, par rapport à ces deux postures là, que vous avez rappelées d'entrée de jeu, vous, votre alternative, ça serait quoi, du coup?
De faire de la sociologie, tout simplement, c'est-à-dire de regarder un peu les pratiques telles qu'elles sont et ce que les gens peuvent en dire quand ils sont pratiquants eux-mêmes, quoi. Il y a une carence particulière, hein, c'est qu'entre ces deux alternatives, on laisse très peu la parole aux sportifs. Il y a tout un ensemble de raisons qui peuvent expliquer ça, entre autres le fait qu'ils soient pratiquants et la façon dont on leur donne la parole dans les médias ne s'y prête pas. De fait, on les écoute assez peu, en dehors de ce qu'ils peuvent dire de leurs résultats et des commentaires qu'ils en ont à en faire. Sur les conditions même de leur pratique, il y a très peu de choses de dites.
Justement, c'était une des questions qu'on se posait, parce que nous, on était très contents de la publication de votre livre, parce qu'on voyait peu de choses apparaître sur ces questions-là. Est-ce que c'est un champ de la recherche qui est nourri, ou est-ce que vous êtes aussi seul qu'on a l'impression sur ces questions-là?
Ici, bon, faut peut-être aussi se garder de considérer qu'il n'y a rien eu de fait. Il y a vraiment des travaux qui ont existé. On n'est vraiment pas les pionniers. Il y a eu des choses qui ont été faites avant nous et des choses très, très intéressantes, mais qui ne portaient pas nécessairement sur le sport de performance et qui traitaient plutôt. Donc, il y a eu un angle d'attaque qui était celui, d'une certaine manière, d'une socio-histoire de la genèse des pratiques physiques. Et comment ça se sont structurés historiquement, donc notamment autour de gens comme Jacques de France, qui fait vraiment autorité dans le milieu, et aussi toute une série de travaux, qui, là encore une fois inspirés des problématiques de Bourdieu, centrés sur une sociologie de la distribution des goûts sportifs. Voir qui pratique quel sport, etc. Donc là, c'est un champ qui a été abondamment nourri, donc de manière beaucoup plus complexe que ce que je viens de dire là, de manière très rapide. Mais il y a effectivement donc beaucoup de travaux, et des travaux très très intéressants, qui traitent du sport en général. Nous, ce qu'on a essayé de faire, donc, c'est d'imposer le principe d'une lecture sociologique des sportifs d'excellence. Puisque, en fait, on a rappelé tout à l'heure donc, comment ils étaient perçus de manière générale. Et notre parti pris, c'est d'essayer de ne pas les considérer, enfin, entre guillemets, que du point de vue de la sociologie du sport, mais précisément de décentrer le regard en utilisant notamment les outils de la sociologie du travail, en disant qu'est-ce qui se passe quand on regarde le sportif comme un travailleur? Et qu'est-ce que c'est que ce travail particulier que le travail sportif? Et ne serait-ce que ce déplacement du regard induit toute une série de questions, donc on a essayé de traiter dans le livre, sur lequel, bon, d'ailleurs, je pense qu'on reviendra abondamment plus tard, mais on peut déjà dire qu'on se rend compte que bah, le sportif, des choses aussi bêtes, n'est quelqu'un qui n'a pas le choix de ses dates de congé, parce que c'est quelqu'un qui travaille le dimanche, que les matchs ont lieu le dimanche, c'est quelqu'un qui a des contrats à très très courte durée, etc., etc. Donc je pense qu'on y reviendra plus longtemps après, mais voilà, nous, la posture qu'on a essayé d'imposer, le déplacement du regard qui est associé à celle-ci.
Alors pour comprendre un peu cette lecture sociologique du sport, Manuel Ciotté, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'histoire un peu de la structuration du sport en France et l'organisation? Vous utilisez en fait deux termes qui sont, enfin deux structures qui sont a priori en concurrence mais qui défendent des intérêts communs. Vous parlez des gardiens du temple que sont les fédérations et les marchands du temple que sont les organisations professionnelles, la professionnalisation du sport. Mais de quand ça date ça? Est-ce qu'on peut faire une petite histoire de revenir au 19e siècle, 18e, 19e, pour parler un petit peu de ça?
Bon, effectivement, pour comprendre comment les choses sont structurées aujourd'hui, il faut remonter dans le temps et précisément revenir au 19e en Angleterre, puisque contrairement à une idée répandue, le sport est une pratique récente. Elle s'invente en Angleterre, donc je ne vais pas revenir sur le détail là-dessus, mais elle s'invente en Angleterre dans la seconde moitié du 19e siècle. Et à la base, le sport est une pratique qui est créée et pratiquée par les élites sociales. Et c'est globalement un loisir distinctif, donc qui est réservé aux élites. Et dans ce cadre-là, il y a une édiction d'un code amateur. En fait, s'impose très précocement l'idée sur laquelle la bonne manière de pratiquer le sport, c'est de le pratiquer en amateur. Alors, de mémoire, on ne le cite pas dans le livre, donc c'est de mémoire, je m'excuse si je me trompe, mais en 1866, il y a l'Amateur Athletic Club, donc qui est un des premiers regroupements qui a jamais existé dans le sport, qui édicte un règlement et qui dit, donc encore une fois, cette mémoire, est amateur tout pratiquant qui refuse de pratiquer pour de l'argent, qui n'est ni journalier ni ouvrier. Donc on ne saurait être plus explicite. En l'occurrence, l'idée bon, que le sport donc, est réservé à des oisifs qui ont le temps de s'adonner à cette pratique-là. Et le fait de pratiquer pour de l'argent est, dans un premier temps, interdit. Et le meilleur garant de cette interdiction qui sera faite aux pratiques populaires de pratiquer le sport, ça sera précisément d'édicter un code amateur. L'idée, enfin, d'imposer l'idée que pratiquer pour de l'argent est une dépravation et la meilleure manière de se réserver la pratique pour soi. Et c'est ainsi que va s'imposer l'idée que gagner de l'argent à la pratique du sport, c'est mal, c'est une perversion. Et donc, très précocement, on a une condamnation morale du professionnalisme. Puisque parallèlement, notamment dans le cas du football, il y a quelques sports qui vont se structurer sur un modèle professionnel, mais c'est des sports isolés. Ça sera vertement condamné par ceux qui ont les clés du monde sportif, donc les aristocrates et les élites anglaises. Donc, s'impose finalement très rapidement l'idée, comme je disais, que la bonne manière de pratiquer le sport, c'est une manière désintéressée. Mais au sens désintéressé, au sens où on ne gagne pas d'argent. Donc l'idée, c'est le sport pour le sport. Alors, on avance un petit peu dans le temps, le sport donc, se diffuse en France assez rapidement, donc fin du 19e. Donc, d'ailleurs, c'est pas hasard, le premier club sportif en France est au Havre, donc ville portuaire, contact avec les Anglais. Et en France, ceux qui vont importer le sport sont des gens qui sont globalement fascinés par le modèle éducatif anglais, donc à commencer par Coubertin, qui est quelqu'un qui a beaucoup été en Angleterre et d'abord qui est aussi une des personnes qui a diffusé l'enseignement de la langue anglaise en France, etc. Donc qui était fasciné par ce modèle-là. Il importe également le sport et dans cette logique de diffusion, eh bien, il reprend le sport tel qu'il existe en Angleterre, donc à savoir sur un mode amateur. Donc s'impose, là encore, cette idée qu'il faut pratiquer de manière désintéressée. Et c'est intéressant de voir que cette manière de voir va être relayée par d'autres groupes sociaux ensuite, parce que le sport est aussi... Il y a d'autres groupes sociaux qui vont s'approprier le sport, notamment des milieux éducatifs, des milieux hygiénistes, qui vont voir dans le sport un moyen d'éduquer ou de rééduquer la jeunesse. Mais là encore, dans ce souci de ne pas pervertir la jeunesse, va s'imposer l'idée que la bonne manière de pratiquer, encore une fois, c'est une manière qui se met à l'écart de l'argent. Donc, pour un ensemble d'indices, un faisceau d'indices convergents, en fait, d'intérêts convergents, va s'imposer cette idée sur laquelle la bonne manière de pratiquer, c'est la manière de pratiquer en amateur. Et si pour nous, ça a une importance, c'est parce que aujourd'hui encore, bon, je pense que Sébastien va le détailler, mais on est encore dans la continuité de cette histoire-là. Et finalement, pour une bonne part, les sportifs d'aujourd'hui, sont les héritiers de cette histoire-là et traînent encore dans la tête des gens cette idée sur laquelle gagner du sport, la pratique de l'argent, n'est pas quelque chose de finalement très très bien. Et sitôt qu'un sportif est un peu moins performant, on va lui reprocher d'être trop payé, etc., etc. Donc renvoie cette idée sur laquelle finalement gagner de l'argent de la pratique du sport, c'est quelque chose qui est moralement douteux.
Peut-être, alors c'est Sébastien, tu peux peut-être dire où on en est alors aujourd'hui sur cette question-là, professionnalisme, oui. Amateur, bénévole.
Donc voilà, donc pour revenir sur cette partie historique, il me semble intéressant de bien apercevoir que il s'agit de l'imposition d'un groupe dominant, en fait, hein, qui est la bourgeoisie et l'aristocratie, qui impose sa propre vision des choses et qui entend bien que l'ensemble des pratiquants s'y plient, en quelque sorte. Donc il y a un effet d'imposition d'un groupe dominant, ça je pense qu'il faut avoir ça en tête. Alors le résultat de tout ça, c'est que les sportifs aujourd'hui sont pris dans une logique où il est absolument impensable qu'ils puissent gagner de l'argent, puisque en fait l'argent ça ne correspond pas au mode d'imposition légitime. Ce qui fait que ils se retrouvent régulièrement discrédités à chaque fois qu'ils s'inscrivent dans cette pratique-là. Or, historiquement, on pourrait imaginer, enfin, on comprend très bien que l'émergence des sports professionnels est concomitante avec celle des amateurs, même si elle a pris moins de visibilité. En fait, il y a toujours eu du sport professionnel et il y a toujours eu des sportifs professionnels, mais ils ont été un peu occultés par l'histoire et par la manière dont on a fait de l'histoire, ce qui est aussi une question importante. Voilà, donc pour ces sportifs, la situation aujourd'hui fait que toutes les questions d'argent sont des questions à bannir, à repousser, et en fait on doit tous se regrouper derrière une même bannière qui serait celle d'un sport universel avec des valeurs éducatives, etc., dans lequel il n'est pas question d'argent, évidemment.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel et on parle ce soir des sportifs en danger suite à la publication du livre du même nom aux éditions du Croquant.
orange à la Lamont, l'orange à la Berre. Quand il y a du grabuge, il déboule le ventre à terre. Tous ses exploits, ses victoires ont fait le tour de la terre. Même lorsqu'il a crevé, il ne manque pas d'air. Ses parents en sont très fiers, ses supporters le vénèrent. Car il a l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Mange à la Lamont, mange à la Lamont, l'orange à la Berre. J'ai beaucoup de respect pour Miguel Indurain, pour Eddy, pour Fausto, ou encore pour le blaireau, pour Roger de Blamin qui est Abraham Olano. Mais celui que j'adore, celui que je préfère, c'est bien entendu notre ami l'orange à la Berre. Mange à la la, mange à la la, l'orange à la Berre. Oui, il a l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Mange à la la, mange l'orange à la Berre. San Remo, il était le plus beau. Autour de Lombardie, il a coiffé Bartoli. Et si à Paris-Roubaix, il s'est absenté, à la Flèche Wallonne, il a donné le maximum. Au Dauphine est libéré, il a tout fait éclater. Et ensuite, au Tour de France, il nous a tous mis en France. Mange à la la, mange à la la, mange à la baie. Quand il roule en facteur, c'est qu'il attend son heure. Et dans le peloton, tout le monde est pris de peur. Le calme avant la tempête, le grand tourbillon. Car bientôt il se déchaîne, il faut prendre le bon wagon. Ils garderont le souvenir d'une roue arrière. Évidemment la roue arrière de
l'orange à la Berre.
Mange à la la, mange à la la, mange l'orange à la Berre. Quand il y a du grabuge, il déboule le ventre à terre. Tous ses exploits, ses victoires ont fait le tour de la terre. Même lorsqu'il a crevé, il ne manque pas d'air. Ses parents en sont très fiers, ses supporters le vénèrent. Car il a l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Mange à la la, mange à la la, mange l'orange à la Berre. L'homme au petit bois, le taciturne, l'ange de la montagne et le géant des polders. Le sorcier Dino le pieux et puis l'homme de fer. L'écumeur des circuits et le briseur de chaînes. Le roi de Montlhéry et René la Châtaigne. Monsieur Paris-Roubaix et l'aigle de Tolède. La brambille, la galonne et sans oublier Dieu. Le campionissimo et trompe la mort. Le blaireau, il diabolo, Perico et Lucho sont tous de grands champions, je vous le concède. Mais celui que j'adore, celui que je préfère, vous l'avez deviné.
Allez, debout, debout les damnés du terrain. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel et on parle avec Sébastien Fleuriel et Manuel Chautet de la publication de leur livre Sportif en danger, la condition des travailleurs sportifs. Jérémy.
Oui, bah là on vient de parler des gardiens du temple, donc des fédérations. On va revenir dessus. On va aborder là un petit peu les marchands du temple. Pour introduire un peu ce thème, je voulais juste vous lire une interview d'Emmanuel Petit, enfin un extrait d'interview d'Emmanuel Petit paru dans l'Humanité de dimanche de la semaine dernière. Donc Emmanuel Petit, ancien joueur sélectionné dans l'équipe de France de football pour la Coupe du Monde en 98, le 12 juillet prochain, et donc ça fera 10 ans que la France a gagné. Je vous cite ce que dit Emmanuel Petit. « Quand on s'expose trop, on est immédiatement marginalisé ou on est considéré comme un rebelle. Quand nous avons gagné la Coupe du Monde, ma plus grande satisfaction, ça n'a pas été d'avoir brandi le trophée, mais d'avoir vu tous ces gens dans la rue. Ça m'avait foutu la chair de poule. En tant que joueur de football, on a tellement rarement l'occasion de justifier les sommes colossales que nous gagnons tous les mois qu'il suffit de voir le regard des gens en liesse pour tout comprendre. » Et là, je trouve qu'on aborde d'être à ce point satisfait ou de trouver une justification dans le fait de gagner beaucoup d'argent à travers le sport professionnel. On a peut-être introduction de ce que sont les marchands du temple.
Oui, alors quand même une précision quand même sur cette histoire d'argent, avant d'expliquer qui sont les marchands du temple, c'est quand même de rappeler que le cas d'Emmanuel Petit, c'est un peu celui de Zidane, donc c'est un peu celui de l'équipe de France de foot. Ça concerne, quand bien même les sommes sont fabuleuses et peut-être probablement scandaleuses, ça peut être discuté, ça concerne très peu de gens au bout du compte, et il ne faut pas se laisser envahir par la surexposition de ces footballeurs-là. Puisque en fait derrière il y a des gens qui sont quasiment du même niveau, il faut imaginer ça, hein, qui avec un même quantité d'entraînement et de préparation sont à des années-lumière salariales d'un Emmanuel Petit. Alors cela dit, pour revenir à la question des marchands du temple, on comprend bien aussi qu'à partir du moment où les fédérations ont kidnappé en quelque sorte ou se sont appropriées les valeurs du sport comme étant celles définitivement vertueuses, et en se repliant en fait sur eux-mêmes, hein, autour de ces valeurs, ils ne pouvaient que susciter des velléités d'intrusion qui sont d'autant plus fortes que la fermeture est importante. Autrement dit, on a des marchands du temple qui sont d'autant plus marchands du temple qu'on a des gardiens qui sont particulièrement vigilants pour garder les valeurs. Alors ces marchands du temple, correspondent essentiellement pour une grosse partie à des organisateurs d'événements, ça soit le Tour de France, que ce soit des gros événements de type Jeux Olympiques, etc. Et puis, parallèlement à ça, on trouve toute une partie de dirigeants de grands clubs, patrons de clubs, que ce soit dans le football ou dans des clubs souvent, enfin dans des sports professionnalisés, donc le basket, le rugby. En fait, leur logique, évidemment, s'oppose complètement et radicalement aux valeurs du sport. Et ils cherchent à imposer une logique qui est celle de la représentation de l'entreprise comme telle. Mais ils sont dans une logique telle qu'en fait, il faut comprendre qu'ils sont au service de l'événement sportif, pas tellement au service du sportif. C'est-à-dire, on a quelques sportifs donc hyper médiatisés, très payés, mais le but du jeu pour eux, c'est pas d'obtenir un salariat, au contraire, c'est d'obtenir le meilleur du sportif lui-même pour que lui-même génère des gains suffisants pour celui qui l'organise. C'est donc un peu différent de l'entrepreneur qui, en général, prend ses responsabilités et se trouve doté d'un salariat.
Ouais, à ce sujet, vous abordez donc le thème des meetings d'athlétisme. Les meetings transforment les athlètes en chefs d'entreprise. Est-ce qu'on peut parler un peu des conditions d'accès, peut-être pour donner un exemple, des conditions d'accès aux meetings d'athlétisme? Dans quelles conditions les athlètes participent à ces meetings et qu'est-ce qu'ils en tirent, qu'est-ce qu'ils apportent aux meetings et qu'est-ce qu'eux en retirent quand ils sont quatrième, cinquième ou même premier ou deuxième dans les meetings régionaux?
Alors c'est plutôt Manuel hein, qui connaît bien ce travail-là, il a beaucoup travaillé dessus, mais ce qu'on peut dire globalement, c'est que les meetings ont fait en sorte que ces athlètes sont leurs propres entrepreneurs. Voilà, ils sont les entrepreneurs d'eux-mêmes, ce qui est de la version la plus libérale possible de la notion de marché et de travail, puisque on est dans une situation où ils sont responsables d'eux-mêmes, de leur performance et de leur contre-performance. Mais là, peut-être Manuel peut en dire plus sur les conditions d'accès.
Oui, pour compléter, en fait, dans le livre, on parle d'athlètes, donc entrepreneurs de leur propre carrière, dans la mesure où le salariat n'existe pas en athlétisme. Donc, l'athlète est dit professionnel, mais n'est pas salarié. Et le modèle est le suivant, c'est à savoir que le coureur, le lanceur, le sauteur vient monnayer à chaque compétition sa force de performance, d'une certaine manière. Et il est payé uniquement à la prime, donc en fonction du résultat qu'il produit. Donc ce qui veut dire qu'avant de concourir, il ne sait pas combien il va gagner. Et s'il n'est pas suffisamment performant, il peut très bien ne rien gagner. Et encore une fois, le discours dominant est celui des grands champions, donc Chamel Guérouge, etc., qui pouvaient gagner 250 000 euros sur un meeting, mais une course qui était montée autour de lui, et d'une certaine manière, tous les coureurs qui étaient autour de lui au départ d'une course ne servaient que de faire-valoir, servant à mettre en évidence le talent de ce coureur-là, et les autres coureurs qui concouraient avec lui pouvaient sortir sans rien gagner. Donc on est dans une situation où les sportifs, enfin, en tout cas les athlètes, parce que l'athlétisme pousse très loin cette logique-là, où les sportifs sont des intermittents de la pratique lucrative de l'athlétisme, à ceci près qu'ils n'ont pas de statut d'intermittent du spectacle qui pourrait, on sait que ce statut est moribond, mais qui n'ont pas de statut qui pourrait prendre en charge tout le moment pendant lequel ils ne concourent pas. Et situation doublement paradoxale en athlétisme, c'est aussi que la saison est concentrée sur 2 mois, ce qui signifie que pendant 10 mois, l'athlète s'entraîne à ses frais ou aux frais de sa fédération, enfin peu importe comment il s'organise, en vue de rentabiliser sa capacité de performance pendant 2 mois. Et s'il a le malheur d'être blessé pendant ces 2 mois-là, et bien en fait, il s'est entraîné pendant 10 mois pour rien. Donc on voit que l'athlétisme pousse très loin cette logique-là. Et ce qui est intéressant encore de l'athlétisme, c'est que finalement, ce mode de structuration, la structuration de ce marché du travail particulier, renvoie finalement, est le produit de la rencontre entre, d'une part, la logique des dirigeants fédéraux, qui, en fait, au nom des valeurs du sport, ne veulent pas qu'un coureur gagne de l'argent avant de concourir. Avec cette idée, c'est pas juste sportivement que quelqu'un gagne de l'argent avant de concourir, c'est au nom des valeurs du sport, au nom du mode de hiérarchisation sportif qu'on érige le principe dans lequel le premier doit gagner plus que le deuxième, qui lui-même doit gagner plus que le troisième, etc., etc. Alors que si on regarde ça du point de vue du travail, ils ont tous fourni le même travail et à des niveaux très très proches, parce que entre le numéro 1 mondial et le 10e mondial, la différence est minime. Imaginez, là on est dans une situation où le numéro 1 mondial peut gagner 250 000 euros sur un meeting, alors que celui qui va faire 10e de la course peut lui gagner quelque chose de l'ordre de 1 000 euros. Donc si on compare, je ne sais pas, le meilleur informaticien du monde gagne sans doute déjà beaucoup plus sans doute, que le meilleur coureur du monde, mais le dixième informaticien du monde gagne sans doute beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le dixième meilleur coureur du monde. Donc ça, c'est d'une part ce qui a été mis en... Enfin, comment l'idée, comment les, la logique fédérale, la logique amateur concourt à la structuration de ce marché du travail. Et en même temps, ce qu'on a appelé les évangélistes du marché, ils contribuent aussi, puisque eux trouvent très rentable de payer quelqu'un à la prime, payer quelqu'un sur la base de la performance qu'il a produit, et non pas sur la base d'un statut ou sur un mode salarial.
Parce que vu de l'extérieur, pour des néophytes, hein, pour reprendre le langage du sport, on a l'impression quand même qu'il y a plein de gens qui sont pris en charge par des fédérations, dans le fond, enfin, qui sont pas, si ce n'est salariés, qui sont dans des infrastructures, qui sont logés, etc. Ou alors dans des infrastructures parapubliques à l'armée ou ce genre de corps, quoi. En fait, c'est une image tronquée, ça, ou ça a quand même une réalité
Ça correspond à une réalité. La prise en charge de l'élite sportive par l'État s'est réalisée à partir des années 60, à la suite des Jeux Olympiques, mais enfin, qu'importe les circonstances précises. Et ça s'est construit à partir des années 60 de façon de plus en plus forte, avec une tutelle toujours de plus en plus prégnante. Donc il y a bien quelque chose qui renvoie à ce qu'on appelle le statut d'athlète de haut niveau, qui est un statut légal, qui renvoie à des dispositions législatives, etc. Donc là, de ce point de vue-là, il se passe bien quelque chose. Mais au-delà du statut, il y a une prise en charge aussi qui se fait, au niveau de la... pour la production de la performance. On est prêt à tout pour que des athlètes produisent de la performance. Donc on les met dans des camps, en gros, hein, on les enferme d'une certaine manière, et on sait fabriquer de la performance de manière très rationnelle, ça c'est pas compliqué, on met des kinés, on met des entraîneurs, on met de la diététique, on met tout un ensemble de choses.
Donc, un petit peu de cocaïne, si possible.
tous les ingrédients sont bons, mais c'est qu'il y a, là il y a un savoir-faire rationnel qui est possible, et le statut de l'athlète de haut niveau renvoie à ça, c'est-à-dire c'est une politique d'administration et de fabrication du champion. Ça ne veut pas dire que le champion pour autant que l'athlète de haut niveau pour autant au-delà de cette prise en charge pour la performance soit aidé. Les statuts, par exemple, au niveau de la sécurité sociale, ne sont pas du tout harmonisés. Pendant cette mise sous tutelle, en quelque sorte, même si le vocabulaire est exagéré, du sportif, il ne cotise pas pendant sa retraite, hein. Donc il y a un statut, mais un statut très ambigu qui renvoie à pas grand-chose, si ce n'est l'énergie mise à disposition pour produire de la performance. Voilà, donc ça, c'est une dimension importante. Donc à la fois, c'est présent, et en même temps, pour les athlètes, au-delà de cette prise en charge immédiate, il ne se passe pas grand-chose.
Alors peut-être qu'il faudrait revenir sur la on l'a déjà évoqué en partie, mais sur ce que sont ces fédérations découpées par sport et qui ont un rôle tout à fait central et qui structurent ce domaine du sport. C'est assez étonnant ce que vous décrivez dans votre ouvrage. J'ai l'impression qu'on retrouve ça nulle part ailleurs, cette prégnance de ce que sont ces fédérations, quoi.
Oui, alors ces fédérations, elles sont dans un statut effectivement très particulier qui leur donne beaucoup d'autorité, puisque à la fois elles relèvent de l'initiative privée, puisque ce sont des associations en principe qui fédèrent l'ensemble des clubs, etc. Donc elles se positionnent comme étant représentatives des licenciés, c'est-à-dire des sportifs qui prennent une licence au sens direct du terme, c'est-à-dire qui prennent une autorisation de pratiquer. Et donc elles sont légitimes de ce point de vue-là dans un modèle de type pyramidal où il y a plein de licenciés, puis nous on organise les compétitions et on construit des hiérarchies. Et parallèlement à ça, elles retirent aussi beaucoup de légitimité de la délégation que leur donnent les pouvoirs publics qui leur confient un monopole. C'est-à-dire que personne d'autre que la Fédération française de rugby, je parle au hasard hein, d'une fédération, ne peut organiser une Coupe de France de rugby. Donc elles détiennent un monopole d'utilité publique, en quelque sorte, quoique le vocabulaire ne soit pas exactement celui-ci, c'est une délégation. Et donc elles jouent sur les deux tableaux, à la fois de l'initiative privée et de la tutelle publique, pour organiser les compétitions, ce qui leur donne une force sans précédent, effectivement, pour faire passer les messages qu'elles ont envie. Ensuite, ces fédérations distillent les valeurs qui sont propres aux dirigeants qui les contrôlent, qui sont souvent des bénévoles et qui font carrière. Ça, il faut l'imaginer, qui font de véritables carrières de bénévoles à l'intérieur de ces fédérations, qui occupent des positions, qui peuvent occuper en tous les cas des positions relativement importantes, et qui, bien sûr, distillent les valeurs telles qu'ils se les imaginent, telles qu'ils ont envie de les défendre, qui sont toujours celles de l'amateurisme, en gros, de la beauté du sport, etc. Donc il y a une espèce de mainmise et de contrôle sur la définition des pratiques.
Vous montrez aussi que les cadres de ces fédérations sont dans un bénévolat tout relatif si on compare à un certain nombre d'avantages que ça peut leur apporter.
Oui, il y a une ambiguïté très forte sur ce statut de bénévole, puisque ce sont quasiment des professionnels bénévoles, d'une certaine manière. Alors, c'est un vocabulaire qui est compliqué à associer, mais ça avait déjà été fait dans le secteur associatif, dans d'autres domaines, hein, où on sait que ces dames patronesses qui fonctionnent, font passer et véhiculent des valeurs qui sont toujours très compliquées. On a le cas dans le domaine sportif exactement de la même manière.
Alors les fédérations, vous dites que c'est structurant, mais quand on voit la Fédération française de tennis et les affaires de Christian Bim, ou quand on voit la Fédération internationale de l'automobile et Max Mosley qui a des casseroles aux fesses ainsi que des fouets aux fesses, on voit que c'est pas tellement structurant. On est avec Sébastien Fleuriel et Emmanuel Chautet, les Orients du Front, sportifs en danger jusqu'à 8h30.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Le résumé de votre troisième journée des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, nous sommes en direct de
les Américains qui allaient prendre qui ont réussi un joli carton gras.
Soviétique, ça pique, mais les Afghans font plus longtemps. Question d'en...
Aujourd'hui encore noyé à l'épreuve du waterpolo.
Oui, et bonsoir, c'était notre flash d'information spéciale. Et maintenant place à la musique.
Tire nourri dans le dos, je suis le roi du sprint. Clôture électrifiée, le saut n'a plus de secret. 110 mètres haies, comme j'enjambais les barbelés. Ne pas croupir dans l'ombre, je sortirai du nombre. Sourire belliqueux, qui pourrait faire mieux? J'attends ce moment depuis si longtemps. Je m'offre du mort pour une médaille d'or, pour une en argent, je donnerai mes 20 ans.
Toujours sur Fréquence Paris Pluriel, vous écoutez Les Oreilles loin du front. On est avec Sébastien Fleuriel et Emmanuel Chautet, sportifs en danger, la condition des travailleurs sportifs, paru aux éditions du Croquant. Alors, vous dites dans votre ouvrage que le statut d'exception du sport permet aux uns et aux autres de ne jamais se soucier du sort des sportifs. Donc bah, nous, on s'en soucie ce soir, Cédric.
Bah oui, en fait, en lisant votre livre, en fait, on pensait découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Et de fait, on en découvre qu'on ne connaît pas. Par contre, ça nous rappelle des conditions de travailleurs qu'on a déjà vues par ailleurs dans d'autres secteurs. Alors, on souhaiterait que vous développiez un petit peu, vous racontiez un petit peu ces travailleurs du sport, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas complètement ceux de l'élite, pas Emmanuel Petit peut-être, mais alors les autres travailleurs, dans quelles conditions est-ce que ces gens-là vivent? Peut-être dans le domaine de la course, mais peut-être aussi dans d'autres domaines que vous avez étudiés.
Alors, d'une manière globale, on constate que, d'abord, on a très peu de données sur ces questions-là. C'est qu'on a du mal à photographier la situation sociale et professionnelle des athlètes de haut niveau. Donc, c'est quand même une indication intéressante, puisqu'on a beau alerter les pouvoirs publics sur ces aspects-là, ils s'en saisissent très peu. Et pour cause, on constate que sur l'ensemble de ces sportifs, la situation sociale est assez difficile à vivre avec, si on prend les indicateurs sociaux classiques, pas de sécurité sociale, des systèmes de protection de santé qui ne sont pas mis en œuvre, etc. etc. Alors, si on prend un exemple concret de ce qu'on peut entendre par précarité, il suffit de se tourner vers ce qui s'est passé au rugby. Première forme de précarité qui a eu lieu pendant l'ère, en quelque sorte, des marchands, enfin plutôt des gardiens du temple, où ces dirigeants bénévoles avaient la main mise sur les clubs. Il n'était pas question de penser le professionnalisme parce que c'était pas comme ça qu'on envisageait les choses. On avait affaire à des rugbyman qui étaient placés sous la coupe de leur patron de club, qui était le président, qui était souvent aussi le gros patron de l'entreprise locale, et qui était aussi, bien sûr, l'employeur du joueur dans un système où le contrat n'est pas du tout défini. Donc, en fait, le type est à la disposition du club, intervient dans l'usine et marge un salaire de ce côté-là, et tout ça est organisé ou orchestré par la direction du club. Donc ça donne des situations, des rapports de paternalisme extrêmement puissants, bien sûr, où le joueur peut se retrouver viré du jour au lendemain dans un conflit d'équipe, tout simplement, parce qu'il ne fait plus l'affaire. Bon, bah, comme il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, on se retrouvait dans ce type de situation. Ça, c'est l'ère précédente. La nouvelle ère est tout aussi précaire, d'une certaine manière, même si il y a des mobilisations collectives qui sont importantes, puisque avec la professionnalisation du rugby et son accession en gros aux médias, hein, puisque c'est professionnalisation là signifie ça, et son ouverture officielle, puisque c'était interdit avant, on a vu augmenter le nombre de participations, le nombre de matchs de façon fulgurante, avec évidemment les préparations qui suivent derrière. C'est, on est passé d'un entraînement par jour ou par semaine à deux ou trois séances de préparation par jour. Donc on a vu une augmentation du volume d'entraînement très importante et du volume de matchs aussi.
Et du volume des joueurs aussi.
Et du volume des joueurs, bien sûr. Dans n'importe quel milieu de travail, cette augmentation serait impensable. On ne peut pas imaginer une charge de travail aussi grande et surtout sur un régime de croissance aussi fort, avec des trêves très faibles, plus d'un match par semaine, etc. Et si on rapporte ça à une situation de travail ordinaire, on trouverait ça scandaleux. Mais dans le système dans lequel sont pris les joueurs, la possibilité de contrôler le temps de travail, qui est quand même un enjeu important dans les luttes syndicales, est extrêmement faible. Donc ils n'ont pas pris sur ces aspects-là, et ce qui contribue très fortement à les précariser.
Pour compléter peut-être un tout petit peu, en fait, là, pour expliciter vraiment notre idée, c'est vraiment que la question n'est pas celle de l'argent. Donc si on prend le cas d'avant le professionnalisme, donc dans le cas du rugby, par exemple, le problème n'est pas le fait que les joueurs ne gagnaient pas d'argent, ils gagnaient de l'argent, et le problème c'était de la question de leur statut. Il n'y avait pas de contrat, etc., ce qui permettait toutes les formes de domination paternaliste qui existaient. Et une anecdote à ce propos-là, un Serge Simon, donc un ancien rugbyman de l'équipe de France, qui était à la tête du syndicat après des joueurs, nous expliquait que ce qui avait changé entre le moment où, d'avant le professionnalisme et après le professionnalisme, il y a une chose qui a changé, c'est que, au-delà du statut qui était mieux protégé après qu'avant, c'est qu'on perdait 20 000 balles, parce qu'après on payait des impôts. Donc il y a bien l'idée qu'avant, donc, c'était finalement un travail déguisé, et qu'au nom de l'amateurisme, finalement, s'instauraient des formes de travail clandestines, ultra précaires, qui permettaient donc des formes d'une nation hyper paternaliste. Et en, du côté, une fois que les sportifs deviennent professionnels, effectivement, il y a encore une fois la, le fait, enfin, la question des joueurs gagnent relativement bien leur vie, mais la question est celle, encore une fois, de leur statut. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien assez rapidement, c'est que bon, ils ne cotisent pas à la sécurité sociale, enfin, ils ne cotisent pas pour à la sécurité sociale, si, mais pas au régime retraite. Donc, on se retrouve en situation où des sportifs en concouru à très haut niveau, ont représenté la France dans des compétitions internationales, et durant tout ce temps-là, ils ne cotisent pas pour leur retraite. Donc, on, si on compare bon, le cas des militaires, les militaires, donc, au nom de la défense de la nation, ont droit à une retraite qui, en plus, est bien et qui est précoce, etc. Les sportifs, eux, sont dans une situation inversée où ils ont le droit de représenter la France, mais ce droit leur donne le droit de prendre la retraite 15 ans plus tard que tout le monde, puisqu'ils ont un retard de 15 ans de cotisation. Donc, vraiment, pour remarteler l'idée que le problème n'est pas celui qui a de l'argent ou qui n'a pas d'argent dans le sport, qui a trop d'argent ou pas assez d'argent dans le sport, mais précisément qu'il y a un déficit de, au niveau du statut du sportif, en fait. Vraiment, notre idée principale est là.
Et ça ne va pas être facile pour Jeannie Longo, pour sa retraite, évidemment. Mais sinon, en vous lisant aussi, on pouvait être frappé sur une petite scène que vous racontez, qui est l'absence quasiment de... Enfin, vous dites qu'il y a des collectifs qui sont créés dans le rugby, mais globalement, il y a quand même assez peu de collectifs dans cette histoire-là. C'est plutôt la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a plein de travaux qui montrent que les ouvriers en usine, là, pour le coup, s'arrangent pour ne pas travailler autant que ce que leur demande leur direction. Ils font ce qu'on appelle du freinage. Or, chez vous, vous montrez que dans les courses, notamment dans les courses de demi-fond ou de fond, je ne sais pas, là, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, quoi.
Oui, tout à fait. Bon, ça renvoie à ce dont on parlait tout à l'heure, avec un système de paiement à la prime qui valorise la performance et qui incite donc les coureurs à être les plus performants possibles. Et la performance en sport consiste à précisément se distinguer des autres. Donc, c'est une situation qui ne favorise pas l'émergence de collectifs. Et en plus, historiquement, c'est intéressant de voir comment les organisateurs de compétition sont arrivés à ce système qui est celui qui est en vigueur aujourd'hui, donc du paiement généralisé à la prime. C'est, pendant un certain temps, il y avait une partie de la rémunération du sportif qui était basée, normalement, c'était ce qu'on appelait une prime d'image. Donc le sportif avait un fixe avant de concourir en fonction de son degré de notoriété, avec cette idée qu'un sportif, soit une notoriété dont il est porteur, va apporter un surcroît d'intérêt à l'épreuve à laquelle il concourt. Donc ça existe encore, mais uniquement pour les très très grandes stars internationales. Donc ça concerne, donc, à l'athlétisme, 10 concurrents maximum. Tous les autres sont soumis donc, à un système qui est paiement à la prime, et les organisateurs le justifient en disant « Mais oui, mais c'est, pour nous, ce n'est pas rentable de payer des gens sur de l'image, puisque les sportifs, c'est des fainéants. Ils savent qu'ils ont fait une médaille aux Olympiques l'année d'avant, donc après, ils ne s'entraînent pas pendant un an, et nous, on paye des coureurs qui ne sont pas performants. » Donc, au nom d'une logique du spectacle, les organisateurs se refusent à ce système-là, et ont généralisé le paiement à la prime, et ce qui est d'autant plus rentable pour eux qu'en termes de charges sociales, le paiement à la prime leur impose de payer moins de charges sociales qu'un paiement à l'image. Donc en fait, il y a tout un ensemble de conditions qui favorisent le paiement à la prime. Et pour revenir sur un cas précis de course, les organisateurs en fait couplent deux choses. C'est ils couplent donc le classement, donc le premier gagne plus que le deuxième et le deuxième gagne plus que le troisième, mais pour éviter que les coureurs s'organisent entre eux en ayant chacun court tranquillement et on se dispute la course dans les 200 derniers mètres, ce qui leur permet finalement de s'économiser, ce qui serait une forme de freinage. En fait, pour éviter que les concurrents fassent ça, il y a une partie du paiement donc, qui est au classement, mais une partie du paiement qui se fait, de la rémunération, qui se fait à la performance. L'athlétisme est un sport chiffré. Et en fait, il vous dit, voilà, si tu fais 13 minutes au 5000, tu auras autant. Si tu fais 12,55, tu auras autant. Et en fait, c'est très, très précisément, il sait d'avance que vaut mieux courir vite que courir lentement. Donc, tout un ensemble de conditions qui favorisent la performance. Et en plus, dernière chose, il y a une prime au record. Si le coureur fait mieux que le vainqueur d'année précédente, il empoche encore une prime. Donc, ce qui incite aussi à être en concurrence finalement avec ceux des années précédentes et avec ceux qui vont suivre les années qui suivent.
Alors, ce que vous montrez aussi, c'est qu'il y a une véritable adhésion à ce système de la part des sportifs eux-mêmes. C'est-à-dire que toute forme de freinage, tout ça, est finalement assez absente parce qu'ils sont convaincus par le système dans lequel ils sont pris.
C'est-à-dire que, en fait, l'ensemble du système ou du dispositif est fait pour se penser sur le mode de la vocation. Et la vocation est toujours désintéressée. Et quand on s'inscrit dans une passion, on en redemande. Alors c'est formidable pour un employeur, quelqu'un qui en demande toujours plus. Donc on se trouve dans cette situation où les sportifs eux-mêmes ont extrêmement de mal à se vivre comme des travailleurs à part entière. Ils se sentent toujours, il y a toujours une dimension coupable qui est relativement importante.
Oui, eh bien, pelotonner dans l'échappée, tout là-haut, sous les nuées. Sous les vivas, ils souffrent en silence. Le silence des boyaux sur l'asphalte, ils souffrent moins qu'à pied tout de même, dans les calepiers. Walking in the rain. Walking in the rain. Dans le silence de l'échappée, il s'agit de la boucler. La boucle, les lacets, et puis évidemment le grand braquet. Au train, et puis on les mains. Demain, le bouquet, les baisers, et puis évidemment la marche à pied. Un walk-in in the rain. Walk-in in the rain. Faudra pas crever demain.
On est dans les oreilles loin du front avec Sébastien Fleuriel et Emmanuel Chautet pour les sportifs en danger. On parlait précarité, donc on voulait rebondir avec vous sur la question de l'immigration, de la gestion des immigrés, puisqu'on entend beaucoup de discours sur les sportifs, hein, à la fois que certains pays seraient naturellement doués pour certains sports, hein, les Kenyans qui courent, je sais pas quoi, d'autres qui sautent, etc. quoi. D'une part, et puis d'autre part, on voit qu'il y a des transferts internationaux de main-d'œuvre, on a presque envie de dire ça, et une gestion des sans-papiers aussi sportifs en France que vous relevez. Est-ce que vous pourriez faire un peu le point là-dessus?
Donc, là, je vais encore une fois prendre le cas de l'athlétisme, d'une part parce que c'est celui sur lequel j'ai travaillé, et d'autre part aussi parce que c'est celui qui, en apparence, a la dimension la plus internationale. C'est-à-dire qu'il y a des champions olympiques issus du Mozambique, il y en a issus du Mexique, il y en a issus du Kenya, enfin, vraiment, beaucoup de pays sont représentés. Et de plus, ce sport se présente, a priori, comme étant le plus universaliste qui soit, dans la mesure où rien n'apparaît plus simple et nécessite moins de matériel que le fait de courir, de sauter ou de lancer. Donc voilà, en athlétisme, il y a cette idée donc, finalement du marché parfait, du marché pur, qui permettrait aux plus talentueux, quelle que soit la région du monde dont ils sont issus, de s'exprimer. Donc voilà, sans barrière, sans filtre intermédiaire. Or, quand on regarde un peu plus attentivement, on se rend compte qu'il y a des airs vraiment spécialisé dans la production des champions de telle ou telle discipline. Donc, pour prendre le cas des coureurs de moyenne et longue durée, c'est trois pays, simplement. Toute l'élite mondiale vient du Kenya, de l'Éthiopie et du Maroc. Et partant de là, en fait, un certain nombre de commentateurs, peut-être un petit peu pressés, en déduisent que, en fait, si les gens issus du Kenya, de l'Éthiopie et du Maroc réussissent, c'est qu'ils seraient naturellement doués pour la réussite de ce sport. Donc, il y a toute une série de théories plus ou moins fumeuses, mais qu'il est assez facile de démonter. Et en l'occurrence, quand on regarde un peu plus comment ça s'est passé, on se rend compte que la réussite de ces coureurs-là procède finalement de la rencontre entre la production d'une part d'une offre de travail et la production d'une demande de travail. La production de l'offre de travail, c'est tout simplement, bon, pour des raisons historiques, il y a eu dans ces pays-là un fort accent, bon, pour plein de raisons, mis sur la production systématique de coureurs. Donc, bon, c'est des raisons que je ne détaille pas, mais en fait, il y a vraiment derrière cette réussite qu'on pourrait croire comme étant le pur produit d'un don, etc. En fait, non, il y a un vrai travail de mobilisation qui renvoie à la convergence d'intérêts publics et d'intérêts privés, etc., qui sont mis en œuvre. Donc, il y a vraiment des aires de production d'élite surnuméraire, là, pour le coup. Donc, voilà pour la question de la production de l'offre de travail. Production de la demande, mais en fait, c'est à partir des années 80, la structuration d'un marché de l'athlétisme qui renvoie à ce que j'ai décrit tout à l'heure, à savoir des formes ultra précaires. Et en fait, on est dans une situation où, globalement, les seuls qui acceptent de s'adonner, qui acceptent ces conditions de travail-là, sont des coureurs issus de pays relégués. Donc ça, on peut très facilement l'objectiver. On regarde qu'il y a un massif taux d'abandon des coureurs français qui brillent au niveau junior, donc qui sont très bons dans les catégories jeunes, et qui, une fois qu'ils passent en catégorie senior, donc chez les grands, arrêtent la pratique. Dans le football, on ne voit pas ça. Quelqu'un qui est en équipe de France junior de football continue de pratiquer. En athlétisme, quelqu'un qui est en équipe de France sur 5000 mètres en junior a toutes les chances d'arrêter parce que précisément, il n'ose pas, et à mon avis à juste titre, se lancer dans un marché aussi précaire. Donc on voit évoluer finalement dans ce qui est au principe finalement de la venue de ces coureurs kényans, éthiopiens et marocains, c'est tout simplement que pour un ensemble de conditions qu'on comprend assez facilement, eux sont prêts à accepter ces conditions-là. Ce sont des conditions donc ultra précaires. Et une chose, après on passera peut-être à un autre point, mais une autre dimension aussi qui est importante sur l'aspect international, c'est que le pouvoir des organisations sportives, qu'elles soient nationales ou internationales, a partie liée avec la structuration du sport sur une base nationale. C'est-à-dire que tout le sport, au niveau international, est structuré vraiment sur une base nationale. Les sélections se font sur la base de sélections nationales. Donc ce qui compte, c'est pas, et on a le cas en athlétisme, où dans des disciplines donc, comme les courses de mi-fond où les Kenyans sont ultra dominants, au nom du principe de représentativité de chaque nation, on élimine tout un tas de bons coureurs Kenyans, puisqu'en fait on a droit qu'à 3 Kenyans au départ des Jeux Olympiques. Dans toute rigueur, si on permettait à tous les meilleurs mondiaux de participer, il devrait y avoir 20 Kenyans qui participent aux Jeux Olympiques. Mais là, non, c'est 3. Donc, dans ces conditions-là, on comprend qu'il y a beaucoup de... Bon, prendre le cas des Kenyans, qui ont envie de changer de nationalité, tout simplement pour avoir le droit d'exercer leur métier. Mais ce qui serait perçu comme... Enfin, ce qui est perçu tout à fait compréhensible quand on se passe du point de vue des athlètes, est sévèrement condamné du point de vue des fédérations internationales, puisqu'il y a toute une série de mesures qui empêchent aux coureurs de changer de nationalité. Enfin, il y a vraiment des barrières qui sont mises au changement de nationalité. Donc, on a d'un côté le sport, notamment au niveau français, qui est capable de voir en Zidane le modèle de l'intégration à la française, mais en réalité, tout est fait pour freiner la mobilité des sportifs. Enfin, on pourrait détailler ça plus longuement, mais...
Ouais, si je peux compléter cet aspect-là, c'est que si on imagine dans la chaîne de production de la performance que les sportifs sont les ouvriers, tout est fait pour empêcher la circulation des étrangers, d'une certaine manière, de base. Voilà. Donc on raisonne de telle façon que ces sportifs ne puissent pas circuler trop facilement, parce que là, ça complique les choses, ça tue le marché, etc. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans cette chaîne-là, par contre, les élites, c'est-à-dire les dirigeants sportifs, les dirigeants de fédération, eux, circulent très bien et ne se posent pas du tout le même type de questions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quota pour les entraîneurs étrangers. Ça n'a pas de sens. Et c'est très net, le cas concret est très net aux Jeux Olympiques, où à l'intérieur du village des athlètes, qui regroupe à peu près 10 000 athlètes, la grosse préoccupation consiste à séparer les nations les unes des autres. Que chacun garde son petit appartement, son précaré. Par contre, l'ensemble des dirigeants sont regroupés dans un seul hôtel de tout le monde. Et là, les idées circulent. Donc il faut avoir en tête cette division des choses qui fait que d'un côté, il ne faut pas que ça circule, et de l'autre côté, du co- côté des élites, bien sûr, dirigeantes, il faut que ça circule.
L'heure tourne, on a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est dommage, j'aimerais qu'on termine sur un point positif, disons, sur les mobilisations collectives. Vous en parlez dans votre livre, vous donnez quelques exemples, notamment au niveau d'un championnat de rugby, de la refonte d'un calendrier. Alors, on peut peut-être très vite dire un peu ce qui s'est passé. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi des syndicats de joueurs. Moi, j'ai appris quelque chose, je savais pas qu'il y avait des syndicats de joueurs. Et j'ai lu aussi récemment que des ligues professionnelles nord-américaines, la ligue de hockey notamment, était en grève, ou d'autres ligues se mettent en grève. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que peut-être il y a un espoir de la reconnaissance du sportif en tant que travailleur dans ces mobilisations, collectives?
C'est ce qu'on souhaite en tous les cas. C'est pour ça qu'on a écrit dans cette collection, c'est qu'il y a un message militant à faire passer de ce point de vue-là. Sur la mobilisation des rugbyman, très vite, précisément autour de la maîtrise du temps de travail et des contraintes liées à l'accumulation des matchs, les joueurs ont retourné leur exposition médiatique pour faire passer un message et pour briser en quelque sorte une décision qui n'allait pas dans leur sens, qui les privait d'une trêve. Donc en fait, comment ils ont fait? Tout simplement grâce à un travail du syndicat des joueurs qui s'appelle Proval, ils se sont organisés pour retarder un match l'ensemble des matchs, c'était en multiplex, pour retarder l'ensemble des matchs qui devaient avoir lieu en direct auprès de la télé. Et donc ça a mis une pression évidemment très, très forte sur les organisateurs de l'événement, qui ont été obligés de céder face à la contrainte, puisqu'il n'était pas possible de présenter aucun match face aux télés. Donc il existe des balbutiements de mobilisation. Alors c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus fortes aux États-Unis, mais on ne connaît pas très bien le système. Mais en France, pour l'instant, les organisations syndicales sportives sont pour l'instant encore assez faibles du fait du manque de culture de travail, hein, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on appelle à cette mobilisation.
Voilà, alors cette émission était évidemment trop courte. On n'a même pas évoqué le cas du curling ce soir. Mais on va tout de même donc rappeler, pour en savoir plus, il y a ce livre qui est publié aux excellentes éditions du Croquant. Sébastien Fleuriel et Manuel Chotet, Sportifs en danger, la condition des travailleurs sportifs. Et c'est publié c'est en vente pour 10 euros. Voilà, mais merci beaucoup de votre venu dans cette émission.
Merci. Nous.
Et puisqu'il n'y a plus de règles, plus de normes, plus de morale, plus de respect, plus d'autorité, puisque tout se vaut, alors tout est permis.
Voilà, ce soir, l'alternative, c'était de faire donc de la sociologie. Et puisque la manière de faire de la radio libre, la meilleure, c'est donc de le faire bénévolement, on retrouvait sur le terrain le meilleur de ce que peut produire notre politique d'administration et de fabrication des champions. Il y avait Alex, mais il y avait aussi Juliette qui, depuis les 6 mètres, a envoyé un magnifique pruneau. La balle ensuite est arrivée dans les pieds de Jérémy. Jérémy qui a dribblé un CRS du Bois de Vincennes avec son micro, qui a passé à Cédric. Cédric bien démarqué sur sa gauche. Magnifique réception de Cédric qui temporise brièvement et qui déborde sur sa gauche, toujours sur sa gauche. Les chercheurs à la solde du grand capital. Cédric qui centre pour Guillaume Yom. Magnifique réception de Guillaume Yom qui entre dans la surface et efface à lui tout seul trois chroniqueurs de la radio bourgeoise et leur inculture crasse. Il tire et marque, humiliant le directeur d'antenne surpayé qui tentait de garder la cage. Ça fait donc 1-0 pour nous. C'était les oreilles loin du front et ça sera bientôt les sirènes du port d'Alexandrie, puisque voici Claudie et Claudia.